9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour et bon dimanche. Donald Trump sera donc candidat à la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. On n'en a donc pas fini avec l'une des personnalités les plus clivantes de notre époque, qui suscite à la fois fascination et répulsion. On va voir ça tout de suite avec un intellectuel trumpiste. Il s'agit de Guy Millière. Il est français, mais il vit aux États-Unis et vient de publier un livre intitulé « Après la démocratie ». Je recevrai ensuite André Bedjebar, qui sort une histoire secrète de la bombe atomique française. Et l'on terminera l'émission en chanson avec Aurélie Saada, Brigitte, le duo c'est fini. Maintenant, c'est Aurélie toute seule qui sort le meilleur album pour affronter l'hiver.
Europe 1.
Donald Trump est donc candidat aux prochaines élections présidentielles américaines qui auront lieu dans 2 ans, en 2024. Alors pour comprendre ce que l'ancien président a dans la tête, mieux vaut demander à un vrai trumpiste, on ne les entend jamais en France, et pourtant ils sont encore nombreux aux États-Unis. Guy Millière, bonjour.
Bonjour.
Ancien président de l'Institut Turgot à Paris, vous vivez depuis plusieurs années en Amérique, où vous êtes devenu un ardent supporter de Trump. Vous avez publié « La révolution Trump ne fait que commencer » et là vient de paraître chez Ballant « Après la démocratie, l'Amérique et le monde au temps de l'administration Biden ». Vous avez été reçu jeudi dernier dans la propriété de l'ancien président à Mar-a-Lago. Je suppose qu'il était très confiant, selon son habitude. Il est persuadé de l'emporter, non ?
Oui, tout à fait. Il est très, très confiant. Il est très dynamique. Je dirais que beaucoup de gens insistent sur son âge. Si vous le rencontrez, vous voyez qu'il fait 10 ans de moins que son âge. Il est très dynamique. Il est très, très confiant, oui. Il n'y a aucun problème de ce côté-là.
Donald Trump se voit comme un éternel triomphateur. C'est le plus grand homme d'affaires de tous les temps, le plus grand président que la Terre ait jamais porté. Alors que ses adversaires le considèrent comme un loser. D'abord parce qu'il a connu plusieurs faillites dans ses hôtels et ses casinos, mais aussi sa compagnie aérienne. Et puis parce qu'ils estiment qu'il a été battu de 3 millions de voix par Hillary Clinton en 2016, de 7 millions de voix par Joe Biden en 2020. Il a perdu la Chambre en 2018, le Sénat en 2020. Les candidats qu'il a soutenus ont été, pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas, battus la semaine dernière lors des midterms. Pourquoi lui faites-vous encore une telle confiance, vous ?
Je lui fais confiance d'une part parce que le bilan de ces 4 années de présidence, on a tendance à ne pas le souligner dans le contexte français, a été un bilan absolument remarquable. Je dirais que c'était 4 années de croissance, de retour des investissements vers les États-Unis, de retour au plein emploi. Tout cela a été brisé par le moment du Covid, mais à peine le Covid avait disparu que le retour à la croissance et le chemin vers le plein emploi se faisait. Et je dirais que pour beaucoup de gens, pour la quasi-totalité des gens que je peux rencontrer aux États-Unis, les années Trump ont été les meilleures années de leur vie, ou tout au moins les 3 premières années, puisqu'après il y a eu le Covid. Je dirais qu'il y a une haine irrationnelle qui a été développée contre Donald Trump. Si vous regardez le bilan de sa présidence, il y a le bilan intérieur, et ce bilan est absolument excellent selon tout le monde, et il y a le bilan extérieur. Si l'on regarde le bilan extérieur, Donald Trump a détruit l'État islamique, Donald Trump a asphyxié le régime iranien, et du coup le terrorisme mondial, le terrorisme islamique qui était largement financé par l'Iran, toutes les formes de terrorisme islamique, y compris Al-Qaïda, a diminué. Le seul groupe terroriste islamique qui n'était pas financé par l'Iran, c'était l'État islamique, qui a été détruit, comme je le disais. La Chine a elle-même été endiguée. La Russie a été endiguée. Je pense que si Donald Trump était toujours président, il n'y aurait pas la guerre en Ukraine actuellement. Donald Trump a su être très dissuasif. Je dirais que sa doctrine en politique étrangère était celle de Ronald Reagan, qui est son grand modèle, c'est-à-dire « peace through strength », la paix par la puissance. Et je dirais qu'il a obtenu la paix par la puissance. Et je dirais que s'il a obtenu ses résultats intérieurs, c'est qu'il a suivi la même politique que Ronald Reagan en son temps, c'est-à-dire déréglementation et baisse massive des impôts. Si la campagne qui a été faite récemment par les républicains avait été basée sur des questions simples, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous êtes plus heureux après 2 années de présidence Biden qu'après 4 années de présidence Trump, je pense que la situation aurait été très différente. Mais si vous avez ce résultat des élections qui viennent d'avoir lieu, c'est dans la mesure où il y a un combat au sein du parti parti républicain, entre les républicains trumpistes et l'establishment républicain. Et l'establishment républicain a toujours voulu éliminer Trump. Il ne fait pas partie du sérail, il ne fait pas partie de leur ensemble. Et l'establishment républicain a tout fait pour faire perdre un certain nombre de candidats que soutenait Donald Trump en leur coupant les vivres, en leur coupant les moyens de mener campagne. Des millions de dollars ont été mis par l'establishment républicain sur des candidats qui n'avaient aucune chance de gagner. Et par contre, de l'argent a été retiré à des candidats qui avaient toutes les chances de gagner.
J'imagine que c'est ce qu'il pense aussi, Donald Trump, aujourd'hui. Celui que vous avez vu chez lui à Mar-a-Lago jeudi soir, il tenait des propos similaires à ceux que vous venez de tenir ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Il pense que l'establishment républicain veut le faire perdre. Et je dirais qu'il veut triompher tout à la fois contre les démocrates et contre l'establishment républicain. C'est presque une lutte à mort entre lui et l'establishment républicain. Et il considère que l'establishment républicain n'a aucune chance de gagner à nouveau la présidence et aucune chance de gouverner les États-Unis ultérieurement. Il pense que les prochaines élections présidentielles seront des élections essentielles parce que les démocrates transforment radicalement le pays en ce moment. Et il pense que si ce que font les démocrates n'est pas arrêté, les conséquences vont être extrêmement lourdes. Les États-Unis vont être un pays méconnaissable. Et je dirais que d'ailleurs, on parle très très peu dans le contexte français de ce que font les démocrates en ce moment aux États-Unis. Et je dirais que je détaille tout cela dans mon livre.
On va en parler, Guy Millière. Fait juste une pause et je vous pose la question juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Guy Millière qui publie « Après la démocratie » avec un point d'interrogation quand même. Hein. C'est sous-titré « L'Amérique et le monde au temps de l'administration Biden ». Ça vient de paraître chez Ballant. Je le disais au tout début de cette émission, Guy, vous êtes un véritable intellectuel trumpiste, hein, comme on n'en entend jamais en France. Alors justement, cette administration Biden, qu'est-ce que vous lui reprochez ? Alors, un, d'avoir volé l'élection, vous en êtes toujours persuadé, hein, j'imagine, et puis surtout de transformer l'Amérique. Alors, vous avez la parole.
Pour ce qui est des fraudes de novembre 2020, je consacre tout un chapitre à ce sujet. Et au fur et à mesure que j'écrivais le livre, je me disais, ce que j'écris n'est jamais dit en France. Pourtant, c'est très documenté, c'est établi. Et c'est pour cela que le livre a 582 notes de bas de page. C'est-à-dire que tout ce que j'énonce est sourcé, documenté, précis. Et bon, je laisse la question de ce qui s'est passé en novembre 2020 de côté. Je vais parler de ce que fait l'administration Biden. L'administration Biden a commencé, et c'est une décision extrêmement grave, par décider de limiter très fortement la production de pétrole aux États-Unis. Et elle a commencé par un geste très symbolique. Elle a arrêté un pipeline qui s'appelle le Keystone Pipeline, qui permettait d'amener du pétrole de schiste du Canada vers les raffineries américaines. Le résultat de cette décision et d'autres décisions ultérieures, c'est que les États-Unis sont passés de l'indépendance énergétique. À la fin de la présidence Trump, les États-Unis étaient le premier producteur de pétrole et de gaz du monde et exportaient même du gaz et du pétrole. Maintenant, ils exportent encore du gaz, mais maintenant, ils sont, sur le plan du pétrole, dépendants de pays étrangers. Et ça a des conséquences géopolitiques. Et ça a aussi pour conséquence un renchérissement très fort du prix du pétrole. Pour les Américains, le carburant à la pompe a doublé. Deuxième décision, l'administration Biden a dépensé des milliers de milliards dans des projets environnementaux en devant financer cela soit par des emprunts, soit par l'émission de monnaie. Et quand vous augmentez la masse monétaire beaucoup plus vite que le produit intérieur brut ne croît, vous avez pour résultat de l'inflation. Et donc aux États-Unis, vous avez une inflation qui est la plus forte inflation depuis plus de 40 ans maintenant. Et je dirais que ça a un impact particulier sur les produits de première nécessité. Et beaucoup de familles ont de graves difficultés actuellement. Les prix alimentaires ont augmenté selon les produit de 20 à 25% à peu près, ce qui est absolument considérable en une période aussi courte. J'ajouterai que l'administration Biden a arrêté la construction du mur qui sépare les États-Unis du Mexique, qui était quasiment fini à la fin de la présidence Trump, et a donné pour ordre aux brigades de la frontière, aux Border Patrol, de cesser de renvoyer les immigrants clandestins, les immigrants illégaux vers le Mexique, et de leur donner simplement un papier leur disant « on vous prie de vous présenter devant un juge quand vous le déciderez ». Et bien évidemment, quasiment aucun ne se présente devant un juge. Le résultat, c'est que vous avez eu, depuis le début de la présidence Biden, 5,5 millions d'immigrants clandestins, d'immigrants illégaux qui sont entrés dans le pays et qui ont été disséminés dans tout le pays. Parmi ces immigrants illégaux, vous avez beaucoup de membres de gangs, de truands, qui avaient été expulsés sous Trump et qui sont dans le pays. Résultat, une augmentation très forte de la criminalité dans toutes les grandes villes. Et les cartels de passage des immigrants clandestins sont aussi des cartels de la drogue. Et vous avez un produit qui fait des ravages maintenant aux États-Unis et qui tue 200 personnes par jour à peu près, c'est le fentanyl. Le fentanyl est fabriqué en Chine. Il est importé à l'intérieur des États-Unis par les passeurs d'immigrants clandestins qui font aussi passer de la drogue. Donc je dirais qu'il y a quelque chose de très nocif qui a été fait, puisque quand vous faites augmenter la criminalité, quand vous installez des immigrants illégaux dans le pays, vous déstabilisez le pays. Et donc toutes ces décisions sont des décisions extrêmement graves. Et puis je dirais qu'il y a d'autres choses. Si vous regardez la façon dont la justice fonctionne, vous voyez qu'il y a de plus en plus une justice politique. Vous voyez que le FBI est utilisé par l'administration Biden comme une police politique. Vous voyez que vous avez des parents d'élèves qui se sont insurgés contre la transformation des programmes que veut l'administration Biden et qui ont été traités de terroristes intérieurs. Vous avez une situation extrêmement malsaine qui s'installe dans le pays. Et c'est précisément parce que cette situation malsaine est installée dans le pays que j'ai appelé le livre « Après la démocratie ».
Alors je vous interromps, Guy Millière, parce que cette déclaration de candidature précipitée de Donald Trump, hein, dans la foulée d'une élection qui n'a pas été gagnée comme les républicains l'espéraient. Ça semble s'expliquer par la volonté de marquer son territoire. Il veut être le premier pour dissuader ses concurrents de se présenter contre lui, notamment Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui vient d'être réélu triomphalement et que le parti semble préférer désormais à Donald Trump, empêtré dans les affaires judiciaires et qui fait fuir, paraît-il, les gros donateurs.
Je dirais que le parti républicain, effectivement, semble s'orienter vers Ron DeSantis, parce que Ron DeSantis est quelqu'un qu'ils peuvent plus facilement contrôler, parce que Donald Trump est indépendant financièrement et ne dépend de personne. Et je peux vous dire qu'il y a comme des gros donateurs. Jeudi soir, à la table de Donald Trump, il y avait des gens extrêmement riches qui sont toujours prêts à le soutenir. Mais il est vrai que l'establishment républicain voudrait lui préférer quelqu'un d'autre. Mais je pense que ça crée une situation extrêmement dangereuse. Je pense que Donald Trump a toutes les chances d'être le candidat. Je pense qu'il sera le candidat républicain. Il jouit toujours d'un énorme soutien actuellement aux États-Unis. Mais si l'establishment républicain veut absolument présenter Ron DeSantis, je pense qu'il y aura un combat entre Trump et Ron DeSantis. Je pense que Trump sortira victorieux, mais que le parti républicain apparaîtra très divisé et que ce sera un visa pour l'élection d'un démocrate en 2024. Je pense qu'une solution intelligente, ce serait de laisser Donald Trump être candidat cette fois. Je pense qu'il a de grandes chances d'être réélu, et de préparer Ron DeSantis pour 2028.
Eh bien voilà, si vous voulez comprendre ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump et de ses supporters, lisez le livre de Guy Millière, Après la démocratie, aux éditions Ballant. Merci Guy Millière d'avoir bien voulu répondre à mes questions. On marque une pause et l'on se retrouve avec l'historien André Benjabar qui va nous raconter comment la France est devenue au XXe siècle la quatrième puissance nucléaire de l'histoire. Merci Guy Millière.
Merci beaucoup.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
André Benjebar, bonjour.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes historien, vous publiez au Cherche Midi une histoire secrète de la bombe atomique française. Alors un livre absolument passionnant, plein de suspense et de rebondissements, où l'on découvre notamment qu'au tout début de la Seconde Guerre mondiale, la France était en pointe hein, dans la course à la bombe. Frédéric Joliot-Curie avait découvert la réaction nucléaire en chaîne et réussi à acquérir la totalité du stock mondial d'eau lourde, 185 kilos, qui tenait dans 26 bidons. Il avait même déposé des brevets.
Ah oui, ça c'est une chose qui est méconnue et pour des raisons diverses, mais il faut crier urbi et orbi que le premier, brevet enregistré, déposé pour une arme explosive, c'est bien les Français qui l'ont fait à Paris.
Ouais, et au moment de l'armistice, Joliot-Curie a réussi à expédier les 26 bidons in extremis en Angleterre pour que les Allemands ne mettent pas la main dessus, et on les a récupérés après la guerre.
Alors ça, c'est une dissimulation tout à fait sympathique de Joliot-Curie, qui est une figure un peu contrastée, dont l'intelligence est incomparable. Le prix Nobel, il l'aurait mérité deux fois.
Il l'a eu en 1935 avec sa femme, Irène Joliot-Curie.
Voilà, ce sont grâce à ça qu'ils sont acheté une maison dans laquelle j'étais travaillé avec les archives de Joliot-Curie. Et il a été un vrai patriote. Et alors, il a été également, il a balancé dans l'hésitation comme beaucoup de Français au début. Il y a un article de lui où il hésite en quelque sorte sur la voie à suivre. Mais on peut dire qu'il a réussi deux choses. Il a réussi à dissimuler les terres rares, c'est-à-dire des éléments nécessaires à la fission.
Et les terres rares qui aujourd'hui nous sont redevenues précieuses, hein, puisque ça nous est utile pour nos téléphones portables, comme pour nos avions de combat.
On n'imagine pas à quel point c'est une chose de géopolitique qui est perdue. Ceux qui étaient en quelque sorte les grands détenteurs de terres rares avant la guerre, en 1939, ce sont les Belges. Et nous avons d'excellentes relations avec les Belges. Et ce sont également les Canadiens. Et désormais, cet enjeu est devenu d'une autre nature, mais je tiens à dire que Joliot-Curie a été, après une hésitation, comme beaucoup de Français, un bon patriote et qu'il a sauvé en quelque sorte les bijoux de famille.
Alors évidemment, ce ne sont pas les Français qui vont faire la première bombe atomique. La défaite aura raison de nous dans ce domaine. Mais à la libération, le général de Gaulle crée le commissariat à l'énergie atomique. Joliot-Curie est à sa tête et il met au point la pile atomique Zoé, notre premier réacteur militaire. De Gaulle a quitté le pouvoir, mais pendant toute sa traversée du désert, qui dure 12 ans, il garde toujours un œil sur la bombe. Cette bombe qui n'existe pas encore, mais que nous sommes en train de vouloir mettre au point.
On ne dira jamais assez que l'expression traversée du désert, que les politistes aiment bien employer, est en contresens dans un certain domaine. Il n'y a jamais eu de traversée du désert, parce que De Gaulle a placé d'abord tous les hommes clés. Tous les hommes clés qui étaient autour de lui sont aux affaires dans des cabinets secrets, et celui qui va être à partir de 54 quelqu'un d'extrêmement important comme Guillaume, qui est un ancien des services secrets de Londres, dont le frère d'ailleurs est celui qui va opérer de Gaulle de la cataracte, nous avons y compris dans l'équipe autour de Pierre Mendès France la totalité des hommes qui comptent dans la résistance. Et donc on ne peut pas expliquer en quelque sorte cette réussite française sans voir la force politique des hommes qui sont derrière, cette espèce d'élite un peu de l'ombre, mais qui est réelle et constante dans toute cette période.
Il y en a aussi dans les gouvernements. Hein. Jacques Chaban-Delmas, par exemple, joue son rôle également en tant que ministre.
Hein. Alors, non seulement Jacques Chaban-Delmas, mais il faut bien voir que les gaullistes, après les élections de 1947, ont eu une existence pas forte, mais réelle. Donc c'était une espèce de parti charnière, et ils ont toujours existé avec Chaban-Delmas et d'autres, et je répète également, parce que je l'ai dit dans maintes fois, mais surtout je l'ai écrit dans ma thèse pour l'authentifier, celui qui a en quelque sorte sauvé aussi la bombe atomique, c'est Pierre Mendès France. Et quand il fait échouer ce qu'on a appelé le crime, qui est un crime sans aucun sens, sans aucun cadavre, le crime du 30 août 1954, où on enterre la communauté européenne de défense, tout le monde, en quelque sorte, crie et continue à crier sur Pierre Mendès France. Mais en vérité, Pierre Mendès France a fait ça pour une raison simple, que je tiens absolument à répéter et que tout le monde en soit conscient. Si la France avait accepté de signer et de ratifier le traité de la communauté européenne de défense, cela signifiait qu'on aurait une armée, qu'on aurait été intégré dans un espace européen, mais qu'on n'aurait pas eu la bombe atomique.
Bien entendu, c'est ça l'enjeu, effectivement. Vous avez prononcé le nom de Guillaume. C'est lui le père de la bombe, hein, de la bombe française. C'est Pierre Guillaume. Alors, il faut en dire un mot.
Alors, Pierre Guillaume est un homme évidemment supérieur. Ce sont des polytechniciens qui se réunissaient, je le sais, parce que j'ai fait tellement d'interviews de gens qui désormais sont disparus. Tous les jours, il y avait une réunion secrète au CEA. C'était le samedi où Peu d'entre eux y étaient, mais Guillaume Aétan était le fer de lance. Et pour l'anecdote, mais je tiens à la dire, puisque je suis dans un lieu de communication de grand public, ceux qui ont fait la Twingo, c'est la même équipe.
Ah oui.
Donc c'est la même équipe, c'est-à-dire ils ont décidé de faire en quelque sorte une imagination dans un domaine, je dirais populaire, de tous, ce qu'ils avaient fait pour la bombe. Et donc la bombe ne pouvait pas exister puisqu'elle était en quelque sorte maudite depuis Hiroshima et Nagasaki. Donc il faut à la fois des gens qui sont, je dirais, pacifiques, mais non pas pacifistes. Il y a une grande différence que je fais entre les deux attitudes. Ce sont des gens qui ont eu l'humiliation, la douleur de la guerre de 40. Et je pense que toute leur énergie, toute leur force, toute leur intelligence, toute leur dissimulation, c'est de dire, il ne faut pas que ça leur recommence. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la bombe.
Mais je vous arrête quand même sur cette anecdote. Oui. La Twingo, ça me paraît bien plus longtemps après.
Oui, mais c'est la même équipe.
Mais ce sont les mêmes gens
Non, c'est les mêmes équipes. Ce sont des gens qui sont en général dans les 10 premiers de Polytechnique. Ce sont donc les gens d'école.
Ce ne sont pas les mêmes, mais qui fonctionnent de la même manière.
Qui fonctionnent de la même manière et qui a une espèce d'héritage de mise en ordre de projets industriels qui demandent le secret et qui demandent la volonté politique.
On fait une pause, André Benjebar, on se retrouve tout de suite après. Il va arriver encore beaucoup de choses avant qu'on ait la bombe.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec André Benjebar qui nous raconte l'histoire secrète de la bombe atomique française. Le livre vient de paraître aux éditions du Cherche Midi. Alors on s'aperçoit quand on lit ce livre, André Benjebar, que tous les présidents du Conseil qui succèdent sous la 4e République en fait concourent à la mise au point de la bombe, mais aucun ne veut s'engager nommément, précisément. Pierre Guillaumat, dont on l'a dit, c'est lui le père de la bombe, c'est lui qui est à la tête du commissariat à l'énergie atomique, c'est lui l'homme de Gaulle, si vous voulez. Pierre Guillaumat leur dit un jour, je vais vous apporter la bombe à Matignon dans une brouette sans que personne ne m'ait jamais donné l'ordre de la fabriquer. C'est quand même un comble.
C'est extraordinaire parce que c'est la réalité de la vie politique et c'est la réalité des divergences de France en France sous la 4e République. On n'a pas de majorité, je dirais, suffisante. On est obligé de faire des compromis et il y a toujours l'ombre portée de Gaulle. Et par conséquent, des gens qui se réfèrent à De Gaulle sur ce projet qui fait que la bombe va je dirais, aboutir à sa fabrication. Personne n'ose le dire. Pourquoi ? Parce que nous avons en 1946 une chose inouïe qui a été aussi également oubliée. En 1946, la France officiellement à l'ONU, par la voie de Parodi, renonce à l'arme nucléaire. Autrement dit, nous avons une position diplomatique de discours qui est de dire « je ne fais pas la bombe » et une pratique politique « je fais la bombe ».
C'est vrai que c'est mal vu de faire la bombe à ce moment-là. Et d'ailleurs, on va nous en vouloir considérablement de l'avoir faite. On va y arriver. Mais d'abord, le cas de Félix Gaillard, un homme qui est assez oublié aujourd'hui, mais qui a été président du Conseil très jeune, à 38 ans. Mais il n'est resté que 6 mois. Et c'est lui qui a donné enfin le feu vert pour les premiers essais, 2 ans plus tard, mais seulement après la chute de son gouvernement. L'ordre est donc antidaté, donc illégal. C'est une histoire extraordinaire, ça.
Mais nous avons affaire que pratiquement qu'à des dissimulations juridiques. Ça va être la même chose avec De Gaulle quand il va arriver aux affaires. Les décrets ne sont pas publiés, mais ils existent. Donc l'ordre de l'État continue à avancer, mais on ne le dit pas. Et Félix Gaillard, oublié, vous avez raison de mentionner sa, je dirais son rôle. C'était un homme, ceux qui l'ont connu et qui m'en ont parlé, était un homme supérieur en tout.
Même François Mitterrand le disait d'ailleurs. Il disait que c'était le meilleur de tous la 4e.
C'est probablement l'homme le plus brillant qu'on a eu sur la 4e République. Mais il va mourir d'un accident, je dirais, prématurément. Et donc il n'aura pas la destinée politique qu'il était en droit d'attendre. Mais il est vrai, encore une fois, qu'il faut faire la bombe sans le dire. Et que parce que nous sommes dans le domaine du secret, nous sommes dans le domaine du secret diplomatique, technique, scientifique, moral. Et il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, peut-être qu'on parlera des Russes, les Russes ont, à travers la présence très forte du Parti communiste pour l'heure, ont mis en quelque sorte sur la bombe une honte, un opprobre. Et cet opprobre fait que le Parti communiste a toujours été très puissant, donc a été pendant très longtemps, avant de s'y rallier tardivement, mais avant de s'y rallier tardivement, il a été un opposant radical à la création de la bombe atomique française. Et donc c'est ce qui explique ce jeu politique complexe, la difficulté du secret, la difficulté de l'argent. Et vous savez, le canon 75 a été le plus célèbre de nos armes, a été voté sur la 3e République sans qu'on le dise à personne que c'était en quelque sorte des sommes destinées à cette arme.
Ben, c'est exactement le canon 75 qui nous sera bien utile pour la guerre de 14.
Voilà. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé pour la bombe atomique. On a un commissariat qui échappe à tout contrôle. Il est placé directement sous l'autorité d'abord du président du Conseil, puis après du président de la République. Et par conséquent, les députés, ils voient que du feu.
Vous l'avez dit, tout ça se passe dans le plus grand secret, mais dès l'instant où Charles de Gaulle revient aux affaires, qu'il devient président de la République. Le premier essai, on l'a dit, il avait été ordonné par Félix Gaillard quelques mois précédemment, hein, et ça va avoir lieu en 1960 dans le Sahara. Et là, de Gaulle trompette absolument partout qu'il va y avoir le premier essai de la bombe atomique française. Là, il n'y a plus de secret. Il faut l'annoncer à tout le monde.
Alors, c'est incroyable, d'abord parce que ça, c'est assez oublié. On n'est pas du tout honteux avec de Gaulle. On est au contraire dans la glorification, même dans l'ostentation, comme je l'ai écrit lorsque j'ai soutenu ma thèse. Cette ostentation, elle consiste simplement à dire aux gens, aux compagnies aériennes, vous ne surveillez pas. On a une responsabilité, il s'agit de savoir qu'il va y avoir...
Tout le monde le faisait à l'époque. Voilà, quand on faisait des essais, on disait aux compagnies aériennes, stop,
vous ne passez pas, tel jour c'est comme ça. Donc, avec de Gaulle, on est dans l'ostentation complète. Et je dois dire que l'arme atomique a cette dualité, je dirais, d'être à la fois quelque chose de honteux, dont on a à repentir, un remords. Je parlerai peut-être des philosophes qui en ont parlé mieux que moi, de Sanders à Albert Camus. Mais en même temps, il y a aussi, en quelque sorte, la victoire prométhéenne. Et donc, ce dilemme dans lequel nous vivons, qui est absolu, qui est à la fois quelque chose qui nous meurtrit, peut-être qui aboutira à l'apocalypse, mais en même temps quelque chose qui nous dit, au fond, l'homme a conquis la puissance, je dirais, la plus incroyable, qui fait que cette bombe est à la fois la chose la plus honteuse et aussi la plus protectrice. J'ai écrit par ailleurs qu'on a voulu donner à la bombe, et Mitterrand était presque sur cette base, je dirais, un prix Nobel de la paix. Non pas par dérision, non pas par antiphrase, non pas par autre chose, mais en disant qu'au fond, pourquoi on n'a pas eu de guerre mondiale depuis 1945 ? Eh bien, tous les stratèges pensent que cet équilibre de force faisant que depuis qu'on a cette arme ou qu'existe cette arme, il n'y aura pas de vainqueur en cas de guerre, eh bien, elle a donné en quelque sorte fin aux guerres de haute intensité jusqu'à présent.
Cette bombe que nous faisons exploser dans le Sahara en janvier 1960 nous fait entrer dans le club très fermé à l'époque des quatre puissances nucléaires, après les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne. Et nous sommes fiers de l'avoir réalisé tout seul. C'était très important pour De Gaulle que nous n'ayons reçu l'aide de personne.
Oui, dès qu'il arrive aux affaires en 1959, on a un discours, parce que De Gaulle a un avantage extraordinaire, c'est quelqu'un qui met les mots et l'action en phase. Et il fait un discours à l'école de guerre, il dit voilà, jusqu'à présent, la défense n'a pas été française, il faut qu'elle redevienne. Et donc il faut absolument que l'arme soit française pour une raison simple. Lorsqu'en 44 et 45, lorsque nous avons demandé aux Américains les équipements de dernier cri de l'époque, tous les équipements, ils ne les ont pas donnés. Donc De Gaulle savait, en tant que chef d'État, en tant que, je dirais, militaire de terrain, puisque c'est ça la différence essentielle avec tous les ministres qui vont, les présidents qui vont nous suivre, nous avons un homme qui a combattu à Verdun, nous avons un homme qui a combattu à Montcormé dans la grande campagne de 40. Donc il sait que sans les armes, tous les propos sont invalidés par les faits. Et donc De Gaulle veut absolument que le feu nucléaire appartienne à la France et à l'autorité du président de la République.
Histoire secrète de la bombe atomique française, c'est signé André Benjebar, ça vient de paraître au Cherche Midi. Merci d'être venu nous raconter toute cette histoire, enfin une petite partie de cette histoire, parce que c'est, comme je l'ai dit, plein de rebondissements et plein de suspense. Merci, bonne journée André Benjebar. On fait une pause, on se retrouve juste après avec une chanteuse, c'est Aurélie Saada.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Aurélie Saada, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous avez passé 13 ans au sein de Brigitte, un duo féminin qui a sorti 4 albums et écumé toutes les scènes de France, d'Europe et du Moyen-Orient. Vous êtes séparés, Sylvie O'Harault et vous, en février de l'année dernière. Vous avez annoncé ça sur Instagram avec beaucoup d'humour en écrivant « C'est pas la première fois que je me fais larguer ». C'était bien vous.
C'était bien moi.
Aujourd'hui, vous sortez votre premier album solo. Il s'intitule « Bombolini ». Mais je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait.
Viens dans mes bras, je vais te consoler. J'ai des secrets pour te faire oublier. Qu'elle a croqué, ton cœur, elle a laissé. J'ai des recettes pour oublier. soignerai ton ventre. Chez moi on aime comme ça. Donne-moi ta peine, je vais la cuisiner.
C'est une très jolie c'est chanson d'Ambolini, chaleureuse, ensoleillée, mais c'est l'histoire d'une rupture.
C'est l'histoire triste d'un amour raté, complètement raté même, plus qu'une rupture.
Voilà, voilà. Non mais j'allais dire, c'est pas la première fois que vous faites larguer.
Non, ce n'est pas la première fois, vraisemblablement.
Oui, c'est un sujet récurrent, j'ai même l'impression. Mais alors, on peut se le dire, pourquoi vous vous êtes séparés au sein de Brigitte?
Je pense qu'on n'était plus tout à fait... On ne rêvait plus vraiment aux mêmes choses, voilà. Et à un moment c'est un peu comme une histoire d'amour, comme un couple. Je crois qu'au début, on a des rêves communs, on a des désirs ensemble, et puis à un moment donné, ça ne marche plus. Ça ne marchait plus. Voilà.
Alors, vous en avez fait un album très gai, parfait pour affronter l'hiver. On écoute tout de suite un extrait d'Abracadabra.
Dans tes boucles comme des points d'interrogation qui dansent sous ma main, je m'en mêle, je m'accroche à toi, tu m'ensorcelles. Tu veux de moi, je me jette à l'eau dans tes bras, j'aurai ta peau tout contre moi. Je tournerai à l'eau dans nos bras.
Aurélie Saada, toutes vos chansons sur cet album ont quelque chose de désuet.
Ouais, j'aime bien ce mot. de désuet, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que j'y ai glissé une orchestration que j'aime, un esprit un peu des années 50, 60, comme ça, où ça déborde de cordes, de cuivres, d'arrangements, comme ça. Moi, j'aime quand il y en a beaucoup. J'aime quand ça déborde, en général.
Mais tout ça vous vient, cet amour de l'instrumentalisation des années 50, par exemple. Vous étiez même pas née.
Bah non, j'étais même pas née, mais je crois que c'est... Je suis dingue de l'image d'une Sophia Loren, d'une Rita Hayworth et de son espièglerie dans sa sensualité. Je suis dingue de l'histoire d'un amour de Dalida. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... j'aime cette espèce d'ultra féminin qui cache... tout en montrant un peu une grosse fêlure. Voilà.
C'est pour ça que vous apparaissez systématiquement dans des robes longues fendues dans vos clips.
Mais comment résister à ces robes-là, vous voyez? Comment résister? Et pourquoi y résister? Pourquoi est-ce que je devrais m'habiller comme tout le monde,
On écoute un incendie.
Un monstre de pluie, une tempête de larmes. Je suis un incendie, une tornade, une avalanche, un séisme redoutable. Depuis que tu es parti, j'ai du mal à retenir les histoires d'amour. C'est tout ce qu'on fait de mieux et de pire.
C'est pourtant vrai que vous vous faites tout le temps larguer, hein, Aurélie Saada.
Oh, ça vous marque, hein, vous avez vraiment envie d'en parler. Je me fais...
C'est vous qui en parlez dans toutes vos chansons, quand même. Là encore.
Ben, écoutez, en tout cas, il faut savoir que la douleur et la blessure peuvent être extrêmement fécondes. C'est aussi grâce à ça que j'ai peut-être des choses à écrire et à dire. Donc... à la fois, ils sont ma douleur et ma nourriture.
Mais c'est vrai aussi que les chansons, notamment les chansons d'amour, et peut-être plus particulièrement les chansons d'amour françaises, adorent les ruptures.
Oui, bah, comme je vous dis, c'est de la nourriture, en fait. Quand on a eu le cœur brisé, on a souffert de quelque chose. De toute façon, quand on a une plaie béante, quelque chose peut naître de là. Quand on est tout parfait, que tout va bien, ben, on n'a rien à dire. Voilà, ça s'arrête là.
Autre chose qui plane sur cet album, c'est la Tunisie. Votre famille est originaire de Tunisie, mais qu'est-ce que ça représente exactement pour vous ?
C'est marrant, c'est ce que j'essaie de glisser dans cette chanson qui s'appelle Tunisie. En fait, je raconte un peu cette nostalgie d'un pays que je ne connais pas, quelque chose que je crois les enfants d'immigrés connaissent assez bien, ce sentiment un peu étrange de connaître très bien quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, comme un intime étranger. Et j'avais envie de... Moi, cette Tunisie, je l'ai découvert, je l'ai connue, enfin, je la connais dans les mots doux que nous glissent mes parents, les grands-parents, dans la cuisine, dans le parfum du cumin, de la fleur d'oranger, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on se dit, dans cette attitude aussi, dans ce rapport à la vie, à la joie, il y a la générosité, il y a quelque chose comme ça qui existe partout et en même temps que je ne connaissais pas pour de vrai. Donc j'ai eu envie de raconter ce sentiment d'intime étranger, voilà, avec la Tunisie de mes parents que j'ai découvert beaucoup plus tard.
On écoute tout de suite un extrait de Tunisie.
On parle avec les mains, on brûle avec les yeux. Chez nous, beaucoup c'est bien, trop c'est mieux. Des cœurs pudiques, des corps outrageux. Mais joyeux, je ne te connais qu'à travers leurs souvenirs. Pourtant dans mes veines, tu pars et tu respires.
C'est carrément du doo-wop. Hein.
Ouais, j'avais envie de ça. J'avais envie de pas aller dans le cliché d'une musique orientale, parce que j'aurais trouvé ça un peu dommage de l'illustrer comme ça, mais plutôt de lui donner un peu de moi, quelque autre chose, quoi. Mélanger les choses. C'est vrai que le désert, je l'ai plus pratiqué en Amérique qu'au Sahara. Et ça m'amusait de mélanger un peu tout ça, quoi.
Vous allez être en tournée dans toute la France à partir du mois de janvier. Vous serez à Paris à la Cigale le 7 mars. Ça va vous faire drôle d'être toute seule sur scène, non ?
Ouais, ça me fait un peu flipper, mais en même temps, ça m'excite beaucoup.
Parce que pendant 13 ans, vous étiez deux.
Ouais.
Faisiez tout ensemble. Mmh. Vous chantiez toutes les deux en duo. Là, tout à coup...
C'est une nouvelle aventure. Voilà, Je redémarre quelque chose et en même temps j'adore ça. J'adore tenter des nouvelles aventures. J'aime bien. J'ai fait un film l'année dernière. J'ai aimé écrire et réaliser un long métrage et c'était une tout à fait nouvelle aventure. Et là, tout d'un coup, me lancer sur scène seule, c'est un peu comme moi j'aime ça. J'aime les sauts dans le vide. J'aime voir là-bas si j'y suis, en fait, tout le temps.
Le film dont vous parlez s'intitule Rose, hein, et l'album dont nous parlons depuis quelques instants s'intitule Bombolini. Je vous souhaite le meilleur, Aurélie Saada.
Merci beaucoup.
Y compris pour cette tournée. Donc, une nouvelle aventure.